Un autre exemple dont M. Rameau attend tout, et qui me semble à moi ne prouver rien. C'est l'intervalle des deux notes ut fa dièse, sous lequel, appliquant différentes basses qui marquent différentes transitions harmoniques, il prétend montrer, par les diverses affections qui en naissent, que la force de ces affections dépend de l'harmonie et non du chant. Comment M. Rameau a-t-il pu se laisser abuser par ses yeux, par ses préjugés, au point de prendre tous ces divers passages pour un même chant, parce que c'est le même intervalle apparent, sans songer qu'un intervalle ne doit être censé le même, et surtout en mélodie, qu'autant qu'il a le même rapport au mode, ce qui n'a lieu dans aucun des passages qu'il cite. Ce sont bien, sur le clavier, les mêmes touches, et voilà ce qui trompe M. Rameau. Mais ce sont réellement autant de mélodies différentes, car non seulement elles se présentent toutes à l'oreille sous des idées diverses, mais même leurs intervalles exacts diffèrent presque tous les uns des autres. Quel est le musicien qui dira qu'un triton et une fausse quinte, une septième diminuée et une sixte majeure, une tierce mineure et une seconde superflue, forment la même mélodie parce que les intervalles qui les donnent sont les mêmes sur le clavier, comme si l'oreille n'appréciait pas toujours les intervalles selon leur justesse dans le mode, et ne corrigeait pas les erreurs du tempérament sur les rapports de la modulation. Quoique la basse détermine quelquefois avec plus de promptitude et d'énergie les changements de ton, ces changements ne laisseraient pourtant pas de se faire sans elle. Et je n'ai jamais prétendu que l'accompagnement fût inutile à la mélodie, mais seulement qu'il lui devait être subordonné. Quand tous ces passages de luth au fa dièse seraient exactement le même intervalle, employés dans leurs différentes places, il n'en serait pas moins autant de chants différents, étant pris ou supposés sur différentes cordes du mode, et composés du plus ou moins de degrés. Leur variété ne vient donc pas de l'harmonie, mais seulement de la modulation qui appartient incontestablement à la mélodie. Nous ne parlons ici que de deux notes d'une durée indéterminée. Mais deux notes d'une durée indéterminée ne suffisent pas pour constituer un chant, puisqu'elles ne marquent ni mode ni phrase, ni commencement ni fin. Qui est-ce qui peut imaginer un chant dépourvu de tout cela ? À quoi pense M. Rameau de nous donner pour des accessoires de la mélodie la mesure, la différence du haut ou du bas, du doux ou du fort, du vite et du lent, tandis que toutes ces choses ne sont que la mélodie elle-même, et que si on les en séparait, elles n'existeraient plus. La mélodie est un langage, comme la parole. Tout chant qui ne dit rien n'est rien, et celui-là seul peut dépendre de l'harmonie. Les sons aigus ou graves représentent les accents semblables dans le discours, les brèves, les longues, les quantités semblables dans la prosodie, la mesure égale et constante, le rythme et les pieds des vers, les doux et les forts, la voix remise ou véhémente de l'orateur. Y a-t-il un homme au monde assez froid, assez dépourvu de sentiments pour dire ou lire des choses passionnées sans jamais adoucir ni renforcer la voix? M. Rameau, pour comparer la mélodie à l'harmonie, commence par dépouiller la première de tout ce qui lui est en propre, ne peut convenir à l'autre. Il ne considère pas la mélodie comme un chant, mais comme un remplissage. Il dit que ce remplissage naît de l'harmonie, et il a raison. Qu'est-ce qu'une suite de sons indéterminés quant à durée ? Des sons isolés et dépourvus de tout effet commun qu'on entend, qu'on saisit séparément les uns des autres, et qui, bien qu'engendrés par une succession harmonique, n'offrent aucun ensemble à l'oreille, et attendent, pour former une phrase et dire quelque chose, la liaison que la mesure leur donne. Qu'on présente au musicien une suite de notes de valeur indéterminée. Il en va faire 50 mélodies entièrement différentes, seulement par les diverses manières de les scander, d'en combiner et varier les mouvements. Preuve invincible que c'est à la mesure qu'il appartient de fixer toute mélodie. Que si la diversité d'harmonie qu'on peut donner à ces suites varie aussi leurs effets, c'est qu'elle en fait réellement encore autant de mélodies différentes en donnant aux mêmes intervalles divers emplacements dans l'échelle du mode, ce qui, comme je l'ai déjà dit, change entièrement les rapports des sons et le sens des phrases. La raison pourquoi les anciens n'avaient point de musique purement instrumentale, c'est qu'ils n'avaient pas l'idée d'un chant sans mesure, ni d'une autre mesure que celle de la poésie. Et la raison pourquoi les vers se chantaient toujours et jamais la prose, c'est que la prose n'avait que la partie du chant qui dépend de l'intonation, au lieu que les vers avaient encore l'autre partie constitutive de la mélodie, savoir le rythme. Jamais personne, pas même M. Rameau, n'a divisé la musique en mélodie, harmonie et mesure, mais en harmonie et mélodie. Après quoi l'une et l'autre se considèrent par les sons et par les temps. M. Rameau prétend que tout le charme, toute l'énergie de la musique est dans l'harmonie, que la mélodie n'y a qu'une part subordonnée et ne donne à l'oreille qu'un léger et stérile agrément. Il faut l'entendre résonner lui-même. Ses preuves perdraient trop à être rendues par un autre que lui. Tout cœur de musique, dit-il, qui est lent, dont la succession harmonique est bonne, plaît toujours sans le secours d'aucun dessin ni d'une mélodie qui puisse affecter d'elle-même. Et ce plaisir est tout autre que celui qu'on éprouve ordinairement d'un chant agréable ou simplement vif et gai. Ce parallèle d'un cœur lent et d'un air vif et gai me paraît assez plaisant. L'un se rapporte directement à l'âme. Notez bien que c'est le grand cœur à quatre parties. L'autre ne passe pas le canal de l'oreille. C'est le chant, selon M. Rameau. J'en appelle encore à l'amour triomphe, déjà cité plus d'une fois. Cela est vrai. Que l'on compare le plaisir qu'on éprouve à celui que cause un air, soit vocal, soit instrumental. J'y consens. Qu'on me laisse choisir la voix et l'air sans me restreindre au seul mouvement vif et gai, car cela n'est pas juste. Et que M. Rameau vienne de son côté avec son cœur, l'amour triomphe, et tout ce terrible appareil d'instruments et de voix. Il aura beau se choisir des juges qu'on affecte qu'à force de bruit, et qui sont plus touchés d'un tambour que du rossignol, ils seront hommes, enfin. Je n'en veux pas davantage pour leur faire sentir que les sons les plus capables d'affecter l'âme ne sont point ceux d'un cœur de musique. L'harmonie est une cause purement physique. L'impression qu'elle produit reste dans le même ordre. Des accords ne peuvent qu'imprimer aux nerfs un ébranlement passager et stérile. Il donnerait plutôt des vapeurs que des passions. Le plaisir qu'on prend à entendre un cœur lent, dépourvu de mélodie, est purement de sensation, et tournerait bientôt à l'ennui si l'on avait soin de faire ce cœur très court, surtout lorsqu'on y met toutes les voix dans leur médium. Mais si les voix sont remises et basses, il peut affecter l'âme sans le secours de l'harmonie, car une voix remise et lente est une expression naturelle de tristesse. Un cœur à l'unisson pourrait faire le même effet. Les plus beaux accords, ainsi que les plus belles couleurs, peuvent porter au sens une impression agréable, et rien de plus. Mais les accents de la voix passent jusqu'à l'âme, car ils sont l'expression naturelle des passions, et en les peignant, ils les excitent. C'est par eux que la oratoire, éloquente, imitative, ils en forment le langage. C'est par eux qu'elle peint à l'imagination les objets, qu'elle porte au cœur les sentiments. La mélodie est dans la musique ce qu'est le dessin dans la peinture. L'harmonie n'y fait que l'effet des couleurs. C'est par le chant, non par les accords, que les sons de l'expression du feu, de la vie. C'est le chant seul qui leur donne les effets moraux qui sont toute l'énergie de la musique. En un mot, le seul physique de l'art se réduit à bien peu de choses, et l'harmonie ne passe pas au-delà. Que ce qu'il y a quelques mouvements de l'âme qui semblent excités par la seule harmonie, comme l'ardeur des soldats par les instruments militaires, c'est que tout grand bruit, tout bruit éclatant peut être bon pour cela, parce qu'il n'est question qu'une certaine agitation qui transmet de l'oreille au cerveau, et que l'imagination, ébranlée ainsi, fait le reste. Encore cet effet dépend-il moins de l'harmonie que du rythme ou de la mesure, qui est une des parties constitutives de la mélodie, comme je l'ai fait voir ci-dessus. Je ne suivrai point M. Rameau dans les exemples qu'il tire de ses ouvrages, pour illustrer son principe. J'avoue qu'il ne lui est pas difficile de montrer par cette voie l'infériorité de la mélodie. Mais j'ai parlé de la musique, non de sa musique. Sans vouloir démentir les éloges qu'il se donne, je puis n'être pas de son avis sur tel ou tel morceau, et tous ses jugements particuliers, pour ou contre, ne sont pas d'un grand avantage au progrès de l'art. Après avoir établi, comme on a vu, le fait, vrai par rapport à nous, mais très faux généralement parlant, que l'harmonie engendre la mélodie, M. Rameau finit sa dissertation dans ces termes. Ainsi, toute musique étant comprise dans l'harmonie, on en doit conclure que ce n'est qu'à cette seule harmonie qu'on doit comparer quelque science que ce soit. Page 64. J'avoue que je ne vois rien à répondre à cette merveilleuse conclusion. Le second principe avancé par M. Rameau, et duquel il me reste à parler, est que l'harmonie représente le corps sonore. Il me reproche de n'avoir pas ajouté cette idée dans la définition de l'accompagnement. Il est à croire que si je l'y eusse ajouté, il me l'eût reproché davantage, ou du moins avec plus de raison. Ce n'est pas sans répugnance que j'entre dans l'examen de cette addition qu'il exige. Car, quoique le principe que je viens d'examiner ne soit pas en lui-même plus vrai que celui-ci, l'on doit beaucoup l'en distinguer, en ce que si c'est une erreur, c'est au moins l'erreur d'un grand musicien s'égare à force de science. Mais ici, je ne vois que des mots vides de sens, et je ne puis pas même supposer de la bonne foi dans l'auteur qui les ose donner au public comme un principe de l'art qu'il professe. L'harmonie représente le corps sonore. Ce mot de corps sonore a un certain éclat scientifique. Il annonce un physicien dans celui qu'il emploie. Mais en musique, que signifie-t-il ? Le musicien ne considère pas le corps sonore en lui-même, il ne le considère qu'en action. Or, qu'est-ce que le corps sonore en action ? C'est le son. L'harmonie représente donc le son. Mais l'harmonie accompagne le son. Le son n'a donc pas besoin qu'on le représente, puisqu'il est là. Si ce galimatia paraît risible, ce n'est pas ma faute, assurément. Mais ce n'est peut-être pas le son mélodieux que l'harmonie représente, c'est la collection des sons harmoniques qui l'accompagnent. Mais ces sons ne sont que l'harmonie elle-même. L'harmonie représente donc l'harmonie, et l'accompagnement, l'accompagnement. Si l'harmonie ne représente ni le son mélodieux, ni ses harmoniques, que représente-t-elle donc ? Le son fondamental et ses harmoniques, dans lesquels est compris le son mélodieux. Le son fondamental et ses harmoniques sont donc ce que M. Rameau appelle le corps sonore. Soit, mais voyons. Si l'harmonie doit représenter le corps sonore, la basse ne doit jamais contenir que des sons fondamentaux, car à chaque renversement, le corps sonore ne rend point sur la basse l'harmonie renversée du son fondamental, mais l'harmonie directe du son renversé qui est à la basse, et qui, dans le corps sonore, devient ainsi fondamental. que M. Rameau prenne la peine de répondre à cette seule objection, mais qu'il y réponde clairement, et je lui donne gain de cause. Jamais le son fondamental, ni ses harmoniques, pris pour le corps sonore, ne donne d'accord mineur. Jamais il ne donne la dissonance. Je parle dans le système de M. Rameau. L'harmonie et l'accompagnement sont pleins de tout cela, principalement dans sa pratique. Donc l'harmonie et l'accompagnement ne peuvent représenter le corps sonore. Il faut qu'il y ait une différence inconcevable entre la manière de raisonner de cet auteur et la mienne. Car voici les premières conséquences que son principe, admis par supposition, me suggère. Si l'accompagnement représente le corps sonore, il ne doit rendre que les sons rendus par le corps sonore. Or, ces sons ne forment que des accords parfaits. Pourquoi donc hérisser l'accompagnement de dissonance ? Selon M. Rameau, les sons concomitants rendus par le corps sonore se bornent à deux, savoir la tierce majeure et la quinte. Si l'accompagnement représente le corps sonore, il faut donc le simplifier. L'instrument dont on accompagne est un corps sonore lui-même, dont chaque son est toujours accompagné de ses harmoniques naturelles. Si donc l'accompagnement représente le corps sonore, on ne doit frapper que des unissons, car les harmoniques des harmoniques ne se trouvent point dans le corps sonore. En vérité, si ce principe que je combats m'était venu et que je l'eusse trouvé solide, je m'en serais servi contre le système de M. Rameau, et je l'aurais cru renversé. Mais donnons, s'il se peut, de la précision à ces idées. Nous pourrons mieux en sentir la justesse ou la fausseté. Pour concevoir son principe, il faut entendre que le corps sonore est représenté par la basse et son accompagnement, de façon que la basse fondamentale représente le son générateur, et l'accompagnement ses productions harmoniques. Or, comme les sons harmoniques sont produits par la basse fondamentale, à son tour, est produite par le concours des sons harmoniques. Ceci n'est pas un principe de système, c'est un fait d'expérience, connu dans l'Italie depuis longtemps. Il ne s'agit donc plus que de voir quelles conditions sont requises dans l'accompagnement pour représenter exactement les productions harmoniques du corps sonore et fournir par leur concours la basse fondamentale qui leur convient. Il est évident que la première et la plus essentielle de ces conditions est de produire à chaque accord un son fondamental unique. Car si vous produisez deux sons fondamentaux, vous représentez deux corps sonores au lieu d'un, et vous avez duplicité d'harmonie, comme il a déjà été observé par M. Serre. Or, l'accord parfait, tierce majeure, est le seul qui ne donne qu'un son fondamental. Tout autre accord le multiplie, ceci n'a besoin de démonstration pour aucun théoricien. Je me contenterai d'un exemple simple, que sans figure ni note, il puisse être entendu des lectures les moins versées en musique, pourvu que les termes leur en soient connus. Dans l'expérience dont je viens de parler, on trouve que la tierce majeure produit pour son fondamental l'octave du son grave, et que la tierce mineure produit la dixième majeure, c'est-à-dire que cette tierce majeure ut mi vous donnera l'octave de luth pour son fondamental, et que cette tierce mineure mi sol vous donnera encore le même ut pour son fondamental. Ainsi, tout cet accord entier ut mi sol ne vous donne qu'un son fondamental, car la quinte ut sol qui donne l'unisson de sa note grave peut être censée en donner l'octave, ou bien en descendant ce sol à son octave, l'accord est un à la dernière rigueur. Car le son fondamental de la sixte majeure, sol mi, est à la quinte du grave. Et le son fondamental de la quarte, sol ut, est encore à la quinte du grave. De cette manière, l'harmonie est bien ordonnée et représente exactement le corps sonore. Mais, au lieu de diviser harmoniquement la quinte, en mettant la tierce majeure au grave et la mineure à l'aigu, transposons cet ordre en la divisant arithmétiquement. Nous aurons cet accord parfait tierce mineure, ut mi bémol sol, et prenant d'autres notes, pour plus de commodité, cet accord semblable, la, ut, mi. Alors on trouve la dixième fa, pour son fondamental, de la tierce mineure, la, ut, et l'octave ut, pour son fondamental, de la tierce majeure, ut, mi. On ne saurait donc frapper cet accord complet sans produire à la fois deux sons fondamentaux, n'étant le vrai fondement de l'accord et du mode. Il nous faut une troisième basse, la, qui donne ce fondement. Alors il est manifeste que l'accompagnement ne peut représenter le corps sonore qu'en prenant seulement les notes deux à deux, auquel cas on aura la pour basse engendrée sous la quinte la mi, fa sous la tierce mineure la ut, et ut sous la tierce majeure ut mi. Sitôt donc que vous ajouterez un troisième son, ou vous ferez un accord parfait majeur, où vous aurez deux sons fondamentaux, et par conséquent, la représentation du corps sonore disparaîtra. Ce que je dis ici de l'accord parfait mineur doit s'entendre à plus forte raison de tout accord dissonant complet, où les sons fondamentaux se multiplient par la composition de l'accord, et l'on ne doit pas oublier que tout cela n'est déduit que du principe même de M. Rameau, adopté par supposition. Si l'accompagnement devait représenter le corps sonore, combien donc n'y devrait-on pas être circonspect dans le choix des sons et des dissonances, quoique régulières et bien sauvées? Voilà la première conséquence qu'il faudrait tirer de ce principe supposé vrai. La raison, l'oreille, l'expérience, la pratique de tous les peuples qui ont le plus de justesse et de sensibilité dans l'organe. Tout suggérait cette conséquence à M. Rameau. Il en tire pourtant une toute contraire, et, pour l'établir, il réclame les droits de la nature, mot qu'en qualité d'artiste, il ne devrait jamais prononcer. Il me fait un grand crime d'avoir dit qu'il fallait retrancher quelquefois des sons dans l'accompagnement, et un bien plus grand encore d'avoir compté la quinte parmi ces sons qu'il fallait retrancher dans l'occasion. La quinte, dit-il, qui est l'arc-boutant de l'harmonie, et qu'on doit par conséquent préférer partout où elle doit être employée. À la bonne heure qu'on la préfère quand elle doit être employée, mais cela ne me prouve pas qu'elle doive toujours l'être. Au contraire, c'est justement parce qu'elle est trop harmonieuse et sonore qu'il la faut souvent retrancher, surtout dans les accords trop éloignés des cordes principales, de peur que l'idée du ton ne s'éloigne et ne s'éteigne, de peur que d'oreille incertaine ne partage son attention entre les deux sons qui forment la quinte, ou ne la donne précisément à celui qui est étranger à la mélodie et qu'on doit le moins écouter. L'ellipse n'a pas moins d'usage dans l'harmonie que dans la grammaire. Il ne s'agit pas toujours de tout dire, mais de se faire entendre suffisamment. Celui qui, dans un accompagnement écrit, voudrait sonner la quinte dans chaque accord où elle entre, serait une harmonie insupportable, et M. Rameau lui-même s'est bien gardé d'en user ainsi. Pour revenir au clavecin, j'interpelle tout homme dont une habitude invétérée n'a pas corrompu les organes. Qu'il écoute, s'il peut, l'étrange et barbare accompagnement prescrit par M. Rameau, qu'il le compare avec l'accompagnement simple et harmonieux des Italiens, et s'il refuse de juger par la raison, qu'il juge au moins le sentiment entre eux et lui. Comment un homme de goût a-t-il pu jamais imaginer qu'il fallut remplir tous les accords pour représenter le corps sonore, qu'il employait toutes les dissonances qu'on peut employer. Comment a-t-il pu faire un crime à Corelli de n'avoir pas chiffré toutes celles qui pouvaient entrer dans son accompagnement ? Comment la plume ne lui tombait-elle pas des mains à chaque faute qu'il reprochait à ce grand harmoniste de n'avoir pas faite ? Comment n'a-t-il pas senti que la confusion n'a jamais rien produit d'agréable, qu'une harmonie trop chargée est la mort de toute expression ? Et que c'est par cette raison que toute la musique, sortie de son école, n'est que du bruit sans effet. Comment ne se reproche-t-il pas à lui-même d'avoir fait hérisser les basses françaises de ces forêts de chiffres, qui font mal aux oreilles seulement à les voir ? Comment la force des beaux chants qu'on trouve quelquefois dans sa musique n'a-t-elle pas désarmé sa main paternelle quand il les gâtait sur son clavecin ? Son système ne me paraît guère mieux fondé dans les principes de théorie que dans ceux de pratique. Toute sa génération harmonique se borne à des progressions d'accords parfaits majeurs. On n'y comprend plus rien, sitôt qu'il s'agit du mode mineur et de la dissonance. Et les vertus des nombres de Pythagore ne sont pas plus ténébreuses que les propriétés physiques qu'il prétend donner à de simples rapports. M. Rameau dit que la résonance d'une corde sonore met en mouvement une autre corde sonore triple ou quintuple de la première. Il a fait frémir sensiblement dans sa totalité, quoiqu'elle ne résonne point. Voilà le fait sur lequel il établit les calculs qui lui servent à la production de la dissonance et du mode mineur. Examinons. Qu'une corde vibrante se divisant en ses alicotes, les fasses vibrer et résonner chacune en particulier, de sorte que les vibrations plus fortes de la corde en produisent de plus faibles dans ses parties. Ce phénomène se conçoit et n'a rien de contradictoire. Mais qu'une alicote puisse émouvoir son tout, lui donnant des vibrations plus lentes et conséquemment plus fortes. Ce qui rend les vibrations plus lentes, c'est ou plus de matière à mouvoir dans la corde en son plus grand écart de la ligne de repos. Qu'une force quelconque en produise une autre triple et une autre quintuple d'elle-même, c'est ce que l'observation dément et que la raison ne peut admettre. Si l'expérience de M. Rameau est vraie, il faut nécessairement que celle de M. Sauveur soit fausse. Car si une corde résonante fait vibrer son triple et son quintuple, il s'ensuit que les nœuds de M. Sauveur ne pouvaient exister, que sur la résonance d'une partie, la corde entière ne pouvait frémir, que les papiers blancs et rouges devaient également tomber, et qu'il faut rejeter sur ce fait le témoignage de toute l'Académie. Que M. Rameau prenne la peine de nous expliquer ce que c'est qu'une corde sonore qui vibre et ne résonne pas. Voici certainement une nouvelle physique. Ce ne sont donc plus les vibrations du corps sonore qui produisent le son, nous n'avons qu'à chercher une autre cause. Au reste, je n'accuse point ici M. Rameau de mauvaise foi. Je conjecture même comment il a pu se tromper. Premièrement, dans une expérience fine et délicate, un homme à système voit souvent ce qu'il a envie de voir. De plus, la grande corde se divisant en parties égales entre elle et à la petite, on a vu frémir à la fois toutes ses parties, et l'on a pris cela pour le frémissement de la corde entière. On n'a point entendu de son, cela est encore fort naturel. Au lieu du son de la corde entière qu'on attendait, on n'a eu que l'unisson de la plus petite partie, et on ne l'a pas distingué. Le fait important dont il fallait s'assurer et dont dépendait tout le reste était qu'il n'existait point de nœuds immobiles et que, tandis qu'on n'entendait que le son d'une partie, on voyait frémir la corde dans la totalité, ce qui est faux. Quand cette expérience serait vraie, les origines qu'en déduit M. Rameau ne seraient pas plus réelles, car l'harmonie ne consiste pas dans les rapports de vibration, mais dans le concours des sons qui en résultent. Si ces sons sont nuls, comment toutes les proportions du monde leur donneraient-elles une existence qu'ils n'ont pas ? Il est temps de m'arrêter. Voilà jusqu'où l'examen des erreurs de M. Rameau peut importer à la science harmonique. Le reste n'intéresse ni les lecteurs ni moi-même. Armé par le droit d'une juste défense, j'avais à combattre deux principes de cet auteur, dont l'un a produit toute la mauvaise musique dont son école inonde le public depuis nombre d'années. L'autre, le mauvais accompagnement qu'on apprend par sa méthode. J'avais à montrer que son système harmonique est insuffisant, mal prouvé, fondé sur une fausse expérience. J'ai cru ses recherches intéressantes. J'ai dit mes raisons, M. Rameau a dit ou dira les siennes. Le public nous jugera. Si je finis sitôt cet écrit, ce n'est pas que la matière me manque, mais j'en ai dit assez pour l'utilité de l'art et pour l'honneur de la vérité. Je ne crois pas avoir à défendre le mien contre les outrages de M. Rameau. Tant qu'il m'attaque en artiste, je me fais un devoir de lui répondre et discute avec lui volontiers les points contestés. Sitôt que l'homme se montre et m'attaque personnellement, je n'ai plus rien à lui dire et ne vois en lui que le musicien. Fin.